Bonjour Damien Pichereau.
Bonjour.
Vous êtes député de la première circonscription de la Sarthe, député de la majorité présidentielle. Et actuellement, l'un des sujets qui amène une énorme fracture dans le pays, c'est le fait d'avoir à se prononcer sur une loi dite de sécurité globale. Et il y a eu un vote la semaine dernière au Parlement sur cette question, question qui a depuis rebondi du fait de l'actualité. Quelle a été votre position sur ce vote?
Alors moi, j'ai voté pour la proposition de loi sécurité globale qui était portée par deux députés de notre groupe, en l'occurrence Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau, qui connaissent très bien, parce qu'elle était avocate et lui, on le sait, patron du RAID, ils connaissent bien ces questions de sécurité. Pourquoi je l'ai voté? Tout simplement parce que elle a un objectif déjà qui est le même que celui qu'attendent les Français. Ils nous le disent, ils nous l'ont dit, ils continuent à nous le dire, de régler ces problèmes d'insécurité qu'on voit dans notre pays, que ce soit la simple délinquance ou même pire, les questions plus graves, comme on l'a vu avec Samuel Paty, de terrorisme. Donc il faut réellement qu'on puisse agir sur cette question de sécurité. Si vous permettez, je dirais juste, c'est une proposition de loi qui est très large et qui permet par exemple de renforcer le pouvoir des maires, qui va conforter la place des polices municipales, qui va aussi réduire la complexité administrative pour nos forces de l'ordre, leur permettre d'avoir plus de temps sur le terrain. Elle va mieux encadrer aussi la sécurité privée, parce qu'on ne veut pas que la sécurité privée ça devienne aussi n'importe quoi, et on sait qu'elle a un rôle important, notamment sur les événements. Elle va mieux encadrer aussi toutes les questions de vidéoprotection pour garantir des libertés fondamentales pour nos concitoyens. Et elle va aussi, par exemple, contrôler la vente des mortiers d'artifice, dont on sait qu'ils ont, il y a quelques semaines, fait beaucoup parler d'eux lors d'incidents qui ont pu émaner dans des banlieues notamment. Et puis il y a cet article 24. Après.
Alors justement, c'est le problème de ces lois qui englobent énormément d'actions, énormément de choses qui peuvent évoluer. Et puis des fois, rien que parce qu'il y a un article qui pose problème, ça peut bloquer carrément tout le processus par rapport à cette loi. Alors cet article 24 remet en cause la possibilité pour les journalistes de pouvoir diffuser les images. Est-ce que c'est l'article en trop? Est-ce que c'est un article mal rédigé? Est-ce que c'est de l'amateurisme, comme disent un certain nombre d'opposants?
Ouais, les opposants savent nous traiter d'amateurs. De toute façon, je crois dans tous les contextes qu'ils soient, y compris quand on agit pour les citoyens, et c'est fort dommage, et c'était simplement de la communication politique. Juste sur cet article 24, il n'empêche pas du tout, il s'attaque pas d'ailleurs à la presse du tout, il n'empêche pas la presse d'informer. Ce que dit l'article 24, et il faut vraiment revenir au texte de loi en lui-même, qui a été réécrit 3 fois pour justement avoir un équilibre et être certain qu'il n'y avait aucun risque d'atteindre la liberté de la presse. Il dit simplement que quiconque, et je ne parle pas de la presse, c'est vraiment quiconque, n'a pas le droit de publier une photo ou une vidéo d'un gendarme, en action ou pas en action d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, si celle-ci est accompagnée d'un message qui vise à atteindre l'intégrité physique ou psychologique du dit gendarme ou policier. C'est-à-dire que, pour être tout à fait concret, je ne peux pas prendre en photo un gendarme dans une manifestation ou même sur la route quand ils sont en train de faire des contrôles de vitesse et dire « il est à tel endroit, allez le frapper ». Oui, ça me semble tout à fait logique finalement.
Oui,
et si j'avais une chose à dire, si j'avais une chose à dire sur cet article 24, c'est que pour moi, il est en réalité incomplet. Alors, il va probablement être encore réécrit, si vous l'avez vu, il y a une commission qui a été nommée et saisie pour cela, mais il est incomplet dans le sens où, selon moi, en fait, au-delà des forces de l'ordre, on ne devrait pas, et c'est le problème des réseaux sociaux, on ne devrait pas avoir le droit de publier la photo de qui que ce soit sur les réseaux sociaux accompagné d'un message de haine. Et on parle bien d'un message de haine. Il ne s'agit pas de dire cette personne est violente, cette personne a fait ça. On parle de dire un message, il faut aller tuer cette personne, il faut aller violenter cette personne, il faut aller violenter sa famille. C'est ça qu'on parle, réellement. Et oui, ça, on doit l'accepter pour personne, y compris pour les journalistes.
Alors, ce que vous dites, quiconque, ça englobe tout le monde, y compris les journalistes. C'est là-dessus qu'il y a eu cette sérieuse ambiguïté qui a mobilisé l'ensemble du monde des médias, du fait qu'il n'y aurait peut-être pas eu suffisamment de distinction entre ce qui relève d'un usage individualisé des réseaux sociaux et de ce qui relève d'une responsabilité de médias dans le cadre d'une activité professionnelle.
Bah, en fait, là, alors quand je disais quiconque sur la fin, sur le côté incomplet, je disais au contraire que quiconque est victime, en fait. On n'a pas le droit de publier la photo de quelqu'un sur les réseaux sociaux accompagné d'un message de haine, selon moi. En tout cas, d'un message de haine violent et qui vise à atteindre cette intégralité physique ou psychologique. Alors, ça, c'est totalement interdit et on l'a vu encore récemment. On l'a vu avec Samuel Paty, notamment, je me permets de le citer, qui a été jeté en pâture sur les réseaux sociaux. Et ben, c'est la même chose pour bon nombre des forces de l'ordre. Et ça, on ne doit pas avoir le droit. Et aujourd'hui, cet article 24, alors, là où il y a une ambiguïté, c'est que l'article 24, il est basé sur, et il modifie la loi de 1881 relative à la liberté de la presse.
Est-ce que c'était indispensable?
Alors, on est en train de regarder justement, il y a la commission, comme je vous l'ai dit, un extra-parlementaire qui va permettre de dire si il y a d'autres possibilités, et s'il y a d'autres possibilités, on est tout à fait ouvert à changer cela. Le fait est qu'aujourd'hui, tout ce qui relève en fait des réseaux sociaux, notamment, puisque là on parle principalement des réseaux sociaux, c'est ce qui est dans la loi de 1881, c'est le code de la presse, c'est vraiment dans le même paquet en quelque sorte. On n'a pas de code spécifique pour les réseaux sociaux. Donc à voir si on peut le mettre ailleurs. Moi honnêtement, je suis tout à fait ouvert si on peut le mettre ailleurs, à ce qu'on le mette ailleurs. De toute façon, encore une fois, que ce soit dans la loi relative à la liberté de la presse ou pas, de toute façon, c'est amené à toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit Éric Lucas à Ciel Guillaume, ou qu'on soit un manifestant au Mans ou pire, un terroriste ou autre, cette loi, elle s'applique. Elle s'applique à tout concitoyen. Personne n'a le droit de publier sur les réseaux sociaux une photo ou une vidéo accompagnée d'un message de haine. Voilà ce qu'elle dit. D'un message de haine violent. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, si on prend le cas du producteur, par exemple, Michel, qui a été violenté le week-end dernier, c'est des images qui sont insoutenables et c'est surtout des faits qui sont inacceptables. La loi, une fois votée, une fois décrétée, ne change rien. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a un message, moi je les ai vus, hein, les messages sur les réseaux sociaux, à aucun moment on appelle au meurtre des policiers ou autre. On est là pour relater des faits. Et donc, dans ces cas-là, la loi ne sert à rien parce qu'on constate, on considère que la liberté d'informer, la liberté de la presse, elle est fondamentale. Et on ne veut surtout pas toucher à cette loi. Et c'est pour ça que le président a notamment aujourd'hui même convoqué les ministres et certains représentants de la majorité au Parlement et des groupes parlementaires pour réaffirmer ce soutien et cette importance de la liberté de la presse et exprimer une volonté de réécrire justement cet article 24 pour être certain. Mais ça fait déjà 3 fois qu'on le réécrit pour justement arriver à un équilibre. Et si on doit le réécrire, on le réécrira encore.
Alors justement sur Paris, il y a eu une succession d'événements graves hein, entre cette affaire qui a touché ce producteur qui a été violemment agressé par des policiers. On a vu aussi les images de policiers qui ont été violemment agressés sur la fin de la manifestation de samedi dernier. Est-ce que finalement, comme me disent certains, vous mettez pas un peu d'huile sur le feu avec ça dans un contexte où il n'y en aurait pas besoin en fait?
Bah, le problème, c'est qu'en fait, c'est en termes de temporalité, il n'y a pas de coïncidence entre guillemets. Je dirais que c'est le contraire. Les manifestations sont là en réaction justement à cette proposition de loi. Après, faut pas non plus se laisser manipuler. Et je sais que les Français ne font pas l'amalgame, mais aujourd'hui, les forces de l'ordre sont là pour nous protéger. Que ce soit les policiers, les gendarmes, il faut pas se tromper, vraiment. Je crois qu'on est en train de tomber dans quelque chose où une certaine frange politique essaie de convaincre tout le monde que notre police, notre gendarmerie sont violents. C'est complètement faux. Ils ne sont ni violents ni racistes. Ce sont des gens qui font leur travail consciencieusement. Vous savez, moi, quelques années après, je suis toujours Charlie. Hein, et quand il faut applaudir les policiers ou les gendarmes, je suis là à le faire. Donc, on doit jamais oublier qu'ils sont là pour nous protéger. Après, j'ai envie de dire que il y a des hommes et des femmes qui sont violents. Il y a des hommes et des femmes qui, oui, effectuent et profèrent des actes et des paroles racistes. Et parmi ces hommes et ces femmes, il y en a certains qui portent l'uniforme de policier ou de gendarme. Mais c'est vraiment une minorité. Et c'est cette minorité-là qu'on doit aller chercher, qu'on doit juger et qui ne doit plus pouvoir porter l'uniforme parce que quand on voit des images comme celles qu'on a vues, c'est insoutenable. Mais je rappelle vraiment que les forces de l'ordre, avant tout, sont là pour nous protéger.
Alors, on est bien d'accord hein, que dans tous les métiers et dans la société, il y a un pourcentage de gens qui ne sont pas dignes d'occuper les fonctions qu'ils ont. Et même, c'est le cas des policiers dont vous venez de parler, et qui d'ailleurs sont actuellement dans les mains de la justice. Par contre, la question qui se pose, c'est qui est finalement responsable aussi de ces gens-là ? S'ils agissent, ils agissent pourquoi ? Est-ce qu'ils agissent parce qu'ils sentent qu'ils se sentent finalement la bride un peu lâchée, ou est-ce qu'on les encourage pas un petit peu un peu plus de violence ? C'est la question qui repose actuellement sur la façon dont le préfet allemand gère les choses sur Paris. Est-ce qu'à votre avis, il est légitime toujours à sa place ?
Écoutez, c'est pas vraiment à moi de le dire. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que on a un nombre croissant depuis maintenant un an et demi de manifestations ultra-violentes, et au-delà d'un an et demi, c'était même avant, simplement en termes de fréquence, c'est quand même de plus en plus souvent des manifestations ultra-violentes qui dégénèrent, et qui d'ailleurs, moi ça, je trouve ça dommage, parce que c'est le message des manifestants ne passe plus. On est aujourd'hui que sur de la violence. Et effectivement, à un moment, on va pas non plus, enfin moi je me mets à la place des forces de l'ordre, hein, quand vous recevez des barrières, des jets de mortier, des fusées, etc., etc. sur vous, il y a un moment où il y a aussi une réponse qui est là et qui peut être violente. Après, elle doit être proportionnée. Donc, est-ce que c'est le problème du préfet allemand ? Je sais pas. Je pense que le problème, il est beaucoup plus global que ça. Il y a aussi un problème d'éducation. Il y a, moi, ce que je dis depuis des mois et des mois, hein, je trouve que dans ce pays, on a de plus en plus recours à la violence au lieu du dialogue. Et c'est ce qu'on a constaté aussi, d'ailleurs, pendant les Gilets jaunes. Et j'en ai été moi-même la première victime, en tout cas, du moins, ma permanence.
Exactement.
Donc c'est vrai que je suis assez inquiet plus par rapport à ça, par rapport à ce recours à la violence, mais pas que de la part des policiers, mais de la part aussi des manifestants et de la part des citoyens dans leur globalité. Je trouve qu'on est de plus en plus violents, que ce soit dans les mots, dans les actes. Alors, est-ce que c'est... quelle en est la cause ? Je sais pas. Mais en tout cas, il faut que ça cesse. Ça cessera... d'un côté par de l'éducation, mais ça, ce sera long, très clairement. Et de l'autre côté, il va falloir clairement une réponse aussi sécuritaire, une réponse pénale. C'est obligatoire. On peut pas laisser les choses dégénérer comme on le voit presque chaque semaine. On voit des débordements, on voit des faits dans la presse qui sont pas acceptables. Et je mets tout le monde dans le même panier. À partir du moment où il y a de la violence qui est disproportionnée, on doit sévir. Très clairement, il faut pas qu'on laisse passer cela, parce que vraiment c'est ce que cherchent à faire ceux qui veulent nous diviser aujourd'hui. Donc si on veut rester unis, on doit tous ensemble faire en sorte de lutter contre ces violences.
Nous sommes, nous, sur la zone rurale du nord-ouest de la Sarthe, vous comme député et nous comme radio, et on est donc dans ce qu'on appelle une zone gendarmerie. On voit des actes violents aussi qui se développent sur nos secteurs, et par contre, on voit pas de trop de contestation de la gendarmerie au point où on a la contestation de la police au niveau national. À votre avis, pourquoi y a-t-il une différence d'image entre la gendarmerie et la police?
Je pense qu'il y a, c'est beaucoup de choses ensemble. Moi, ce que je constate sur la gendarmerie en Sarthe, mais sur la police aussi, et ce qui fait d'ailleurs qu'en Sarthe, globalement, les choses vont plutôt bien. Il peut y avoir parfois des débordements, mais encore une fois, c'est une question d'usage proportionné de la violence. Et je trouve qu'en Sarthe, nos forces de l'ordre font un travail extraordinaire, et les gendarmes sont sur le terrain, sont au contact de la population, et il y a justement ce dialogue. Et vous savez, moi, justement, au sujet de la presse, j'ai pris la liberté la semaine dernière de réunir la presse, l'ensemble des rédactions, dans une réunion hein, qui n'a pas pour but d'être communiquée, mais juste pour dire voilà ce que j'ai pu faire, pour entendre ce qu'ils avaient à nous dire, ce que vous aviez à nous dire tout simplement, sur le rapport entre les forces de l'ordre et la presse. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de renouer le dialogue. C'est pourquoi moi j'ai demandé au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur à ce que justement dans toutes les préfectures, on puisse faire une forme de concertation entre les forces de l'ordre et la presse pour que chacun puisse continuer à faire son métier du mieux possible. C'est-à-dire que la presse puisse continuer à nous informer parce que c'est son rôle et on en a besoin réellement, y compris quand c'est des images qui nous plaisent pas vraiment. On a besoin de ces images-là. Il faut que la France, les Français, que le peuple soit conscient de ce qui se passe, et c'est le rôle de la presse. Et puis de l'autre côté, on a les policiers et les gendarmes qui sont là pour éviter que ça déborde. Donc vraiment, on a besoin de dialogue, et je pense que si ça se passe bien en Sarthe, si ça se passe bien justement avec la gendarmerie, c'est parce que la gendarmerie, elle est au contact des citoyens. Elle est au contact parfois même sur les marchés avec ce camion qui se déplace sur les marchés sartois pour aller à la rencontre des citoyens. Et Voilà, et il y a aussi le bon sens, clairement, de notre territoire et le bon sens paysan, presque, de nos campagnes, qui fait que nous, on respecte aujourd'hui nos gendarmes.
Il n'y a pas aussi une question de proximité, c'est-à-dire que les gendarmes, on les connaît, et la police de proximité, on le sait, elle a beaucoup souffert avec un certain nombre de mesures prises, entre autres, par Nicolas Sarkozy.
Ah ben, mais c'est clair, globalement, ce que vous avez résumé parfaitement ce que je disais, c'est vraiment cette notion de proximité. Moi, j'ai été choqué quand on me disait que, notamment dans les banlieues, les policiers n'étaient pas là pour aller jouer au foot avec les enfants. Ben, en fait, si ça permet justement de renouer ce dialogue et d'avoir cette proximité, bah, le fait de jouer au foot ou de discuter ou de rigoler avec des jeunes, ça permet aussi parfois d'avoir des informations qui permettent d'agir. Et je pense que la force qu'on a justement dans nos campagnes, c'est que cette proximité-là, effectivement, on l'a. On les connaît, les gendarmes, et on sait qui appeler et on leur fait confiance. Donc c'est vraiment cela, et on doit peut-être repartir justement de cette base-là, de ce qu'est aujourd'hui un gendarme, un policier, pour pouvoir généraliser cela et retrouver cette confiance dans nos forces de l'ordre, parce que je le répète, ils sont vraiment là pour nous protéger, ils font un travail extraordinaire, ils comptent pas leurs heures. Enfin, moi, j'ai souvenir d'avoir été les voir il y a quelques mois de cela et d'être face à des hommes et des femmes extrêmement fatigués parce que tous les week-ends, ils étaient sur le terrain. Et vraiment, ils font un travail qui est extraordinaire et je pense qu'on doit leur rendre hommage.
Alors sinon, il y a la question aussi de l'amateurisme, on en a parlé tout à l'heure, qui revient régulièrement dans les mots pour désigner un certain nombre d'erreurs, de bévues ou de choses un peu mal écrites venant de gouvernement. Il y en a une sur lesquelles j'aimerais quand même qu'on revienne, parce que là, ça semble vraiment quand même un total amateurisme. C'est cette histoire de 30 personnes dans les lieux de culte, sans tenir compte de dimension de lieu. Ça vous a pas fait sursauter quand vous avez entendu Emmanuel Macron parler de ça?
Alors, je m'oppose à l'idée d'amateurisme, et en même temps, je me dis que si le fait d'être amateur, ça nous permet d'avoir réformé la SNCF, ce qu'on nous promet depuis 30 ans et que personne n'a jamais osé faire, et si ça nous a permis d'avoir apporté autant de réformes importantes pour notre pays pendant ces 3 ans de mandat, bah franchement, je veux bien être qualifié d'amateur. Après, sur la question de la jauge dans les lieux de culte, une autre question qui est un peu similaire, c'était celle des stades. Je me souviens dans le oui. premier confinement et j'avais co-signé divers courriers avec mon collègue Sacha Houllier notamment, qui visait à dire non mais en fait il faut pas une jauge brute, c'est-à-dire de dire c'est X personnes à tel endroit, il vaut mieux une jauge relative qui souhaite dire bah par exemple il faut 10%, 20%, je sais pas, peu importe, ou alors une jauge comme on a dans les commerces d'ailleurs, de dire il faut 8 mètres carrés pour une personne. Ça, ce serait très bien. C'est vrai que cette question des 30, j'y suis pas très favorable.
Mais comment se fait-il que quelque chose, on va le dire, d'aussi absurde, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que c'était absurde, paraisse comme ça publiquement sans que quiconque puisse dire « Attendez, là, on peut pas dire ça, ça tient pas debout. » Enfin, on comprend pas, là.
Là, sincèrement, je ne saurais pas vous dire, mais effectivement, on se pose tous la même question. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est clair que je me pose cette question. Bon, la priorité, c'est clair que ça a toujours été de protéger les Français et de protéger la santé de nos concitoyens. Maintenant, on ne peut pas appliquer les mêmes règles à Rouen que dans la cathédrale du Mans. Ça me semble assez logique. Bon, des fois, vous savez, on est parfois surpris, nous-mêmes. Mais ça, je tiens à rappeler que ce ne sont pas les députés qui ont voté cela. C'est un choix.
On est bien d'accord.
On a fait passer les messages qu'il fallait.
On est bien d'accord. Alors, justement, Damien Pichereau, est-ce que, à un moment, on souffre pas de trop de jacobinisme en France, c'est-à-dire de considérer que une loi qui est pondue quelque part dans un cabinet à Paris devra s'appliquer absolument partout? Est-ce que il faut pas sortir de ça et aller vers peut-être plus de vision décentralisée des applications de textes de loi?
Alors, je vous dirais totalement, et si j'enlève la période Covid, et notamment ce second confinement qui oblige aussi quand même à avoir une certaine centralité et des règles qui soient à peu près les mêmes partout en France. Pourquoi? Parce que sinon, on risque de créer des appels d'air et de faire en sorte, comme ça a été le cas avec le couvre-feu, où on entendait, et à juste titre d'ailleurs, hein, « Ah oui, il y a un couvre-feu à Paris, mais il n'y en a pas au Mans, donc les Parisiens vont venir au Mans, par exemple, pour faire la fête ou autre. » Donc, je trouve que sur une période comme celle-ci, qui est vraiment une période limitée dans le temps, il est important d'avoir un certain jacobinisme et des normes qui, en tout cas, soient les mêmes partout. Après, globalement, c'est ce qu'on fait sur la mobilité, par exemple, dans la loi d'orientation des mobilités, on décentralise énormément. On a une loi qui va arriver, je l'espère rapidement, qui est la loi 3D, et qui vise justement à entamer une nouvelle étape de la décentralisation, parce qu'on est conscient que les règles ne doivent, enfin, la règle générale doit être la même partout, mais les moyens pour y arriver ne sont pas les mêmes partout. Donc, qu'on soit à Paris, à Lyon, ou à Ciel-Guillaume, la loi doit être la même, évidemment, elle doit être respectée, mais on doit avoir certaines libertés d'action pour pouvoir mettre en œuvre cette loi et faire en sorte qu'on y arrive, tout simplement. Pour prendre un exemple, sur par exemple, les ERP qui permettent d'accueillir les personnes handicapées. Évidemment qu'il faut partout, on puisse accueillir des personnes en situation de handicap. Mais honnêtement, quand on fixe une politique de moyens en disant il faut qu'on ait une rampe de 4 mètres qui fasse 77 cm de large avec une pente de 28 degrés, alors les chiffres, je les connais pas par cœur, on a des endroits où c'est juste pas possible, en fait, en réalité. Moi, par exemple, ma permanence au Mans, c'était pas le cas. Il n'empêche que j'ai fait en sorte, avec des pentes peut-être un petit peu plus élevées, etc., que je puisse avoir la seule permanence de Sarthe, d'après les associations de personnes en situation de handicap, qui soient accessibles aux handicapés. Donc, du coup, voilà, c'est de dire, mais en fait, ayons une politique de fin. Disons, voilà, on vous fait confiance, faites comme ceci, et derrière, si jamais ça va pas, ben, on sera là pour contrôler, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais faisons un peu plus confiance, et notamment à nos territoires. Et je pense que c'est ce qu'on a vraiment entamé.
Alors, pour conclure, juste un aspect très technique, revenons à la loi sécurité globale. Donc, techniquement, elle va cheminer comment, cette loi, dans les prochaines semaines?
Alors là, elle va arriver, enfin, elle est dans ce qu'on appelle la navette, elle va arriver au Sénat. J'ai pas les dates précises d'examen du Sénat, je ne suis pas sûr qu'elles aient été déjà définies. Le Sénat va modifier la loi, donc Gérard Larcher a déjà annoncé qu'il allait retoucher à l'article 24, et encore une fois, on y est tout à fait ouvert, hein. Tant que l'objectif reste le même, s'il y a une écriture qui peut satisfaire tout le monde, on sera tous très contents. Il faut juste que l'objectif reste le même, c'est ça notre objectif central. Après, elle va revenir à l'Assemblée pour un deuxième vote et éventuellement des modifications, ou pas d'ailleurs si jamais il y a un accord entre le Sénat et l'Assemblée, mais c'est parfois difficile, vous le savez. Malheureusement d'ailleurs, je le regrette. Et ensuite, la loi sera définitivement adoptée, on l'espère, dès le début d'année prochaine.
Mais alors, à quoi sert la commission dans ces cas-là?
Laquelle commission, vous voulez dire celle qui...
La commission à Castex, voilà, oui.
Alors si, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'écriture de la loi, et ça c'est de toute façon le Parlement qui a le dernier mot, et le Parlement, que ce soit Sénat ou Assemblée nationale hein, d'ailleurs, qui a le dernier mot et qui réécrira, ça n'empêche pas d'avoir des commissions à l'extérieur des murs du Parlement pour pouvoir réfléchir et nous faire des propositions. Les propositions, on les acceptera ou pas. D'ailleurs, est-ce que ça sera au Sénat ou à l'Assemblée nationale, je ne sais pas. J'espère peut-être que ce sera au Sénat pour qu'on aille le plus vite possible, justement. Parce que cette loi, je pense qu'elle va aider les citoyens, je leur dis, hein, vraiment, elle va aider à améliorer, à lutter contre ce sentiment d'insécurité. Donc, elle est attendue. Mine de rien, vous allez voir que quand les citoyens vont vraiment voir ce qu'il y a dans cette loi, dans la globalité de cette loi, ils diront oui. C'est une bonne loi et on pourra remercier les députés qui l'ont portée et qui l'ont votée.
Voilà, bien, vous remercie Damien Pichereau d'avoir consacré un petit peu de temps pour nous expliquer vos points de vue sur cette question. Et puis aussi d'autres choses, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à une autre fois.
Eh bien, pourquoi pas en réel cette fois.
on aimerait bien tous. Voilà, merci à vous.
Merci, au revoir.